Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Ondenne 90.9 FM, Radio Dio 89.5 FM et sur l'espace radio du Salon Tatou Juste pour cette édition 2018. L'ESS, l'économie sociale et solidaire, selon la loi du 31 juillet 2014, peut comprendre des associations, fondations, coopératives et mutuelles. Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent, le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Pour un grand nombre de structures, leurs ressources financières sont en partie publiques. Voilà donc une définition proposée par le gouvernement sur l'économie sociale et solidaire. Il en sera question aujourd'hui. On va en parler sur le territoire de Saint-Étienne Métropole. L'ESS existe et existait bien avant cette définition-là d'économie sociale et solidaire. Et c'est un secteur économique important, encore en croissance. Et pour cette table ronde, nous accueillons Jean-Michel Pause, maire de Saint-Priest-en-Jarret et conseiller délégué à l'économie sociale et solidaire au sein de Saint-Étienne Métropole. Romain Pellerin, chargé de mission ESS à la MIF, et David Frachis, qui est responsable d'emploi Loire Observatoire. Bienvenue à tous les trois sur ce plateau. On va vous présenter en quelques mots pour ce début de rencontre et de table ronde. Monsieur Pause, tout d'abord, qu'est-ce qui vous est délégué finalement à Saint-Étienne Métropole ?
Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui m'est délégué ? Beaucoup de choses, mais notamment l'ESS, c'est le sujet du jour. Donc c'est une délégation qui est assez transversale. On travaille aussi bien avec les services économiques qu'avec les services qui s'occupent de tout ce qui est innovation, mais également social. Et donc c'est une délégation pleine et entière. Alors j'ai autre casquette à Saint-Étienne Métropole, puisque je m'occupe de la lutte contre les discriminations, mais également de l'accessibilité. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a aussi actuellement des bons résultats. On en parlera tout à l'heure, je pense aussi. Et on le voit à travers ce salon Tatou Juste qui commence à faire parler bien en dehors de Saint-Étienne Métropole.
Alors c'est vrai que ce salon Tatou Juste existe depuis 13 ans maintenant, c'est la 13e édition. Il y a beaucoup de sujets autour de l'ESS et notamment cette économie sociale et solidaire avait été traitée à un moment donné par les services de Saint-Étienne Métropole qui rassemblait ici ces différentes associations. On avait notamment la MIF qui participait à ce salon Tatou Juste il y a encore quelques années. Qu'est-ce que la MIF en quelques mots ?
Alors la MIF en quelques mots, le MIF ça veut dire Maison de l'information sur la formation et l'emploi. Le cœur des métiers des MIF c'est l'accompagnement professionnel et la réorientation professionnelle. Mais on a aussi la Fabrique à entreprendre qui a pour mission d'accompagner l'entrepreneuriat notamment dans les quartiers. Et on accompagne Saint-Étienne Métropole depuis 2010 sur la mise en place de sa politique publique, process, le programme de coopération de l'économie sociale et solidaire. Voilà ce qu'est la MIF.
Alors, on en parlera tout à l'heure durant le déroulé de cette table ronde. Et pour finir ces présentations, David Frachis, vous êtes responsable d'emploi Loire Observatoire. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, David Frachis, je suis responsable de l'Observatoire au sein d'emploi Loire Observatoire. Donc, l'Observatoire travaille sur les secteurs et les métiers au niveau de la Loire. On fait des études notamment avec la métallurgie sur le secteur du numérique. Et la structure emploi à l'observatoire porte également plusieurs dispositifs, dont le DLA, dispositif local d'accompagnement, qui vise à accompagner les structures de l'ESS en proposant par exemple des formations sur le thème, par exemple, les aider à trouver des partenariats pour pouvoir continuer à développer leur activité.
Alors, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, si l'on l'appelle comme ça sur notre territoire, ça ne portait pas forcément ce nom, mais c'est quelque chose qui est ancré historiquement dans la Loire et au niveau de Saint-Étienne.
Alors, c'est vrai que Saint-Étienne, depuis très longtemps, depuis, on va dire, des décennies, et même au 19e siècle, est un creuset un peu de tout ce qui est mutualiste, mais également au niveau associatif, avec de nombreuses structures qui étaient souvent en lien avec les entreprises et qui permettaient notamment aux ouvriers et aux employés de trouver des lieux d'accueil et des lieux de détente ou de loisirs. Alors, il en existe plein et c'est vrai qu'on a une spécificité quand même à Saint-Étienne par rapport à d'autres villes, d'autres grandes villes. C'est qu'on a vraiment cette implication du bénévolat qui est ancrée en fait chez les habitants. Et c'est pour cette raison que à Saint-Étienne Métropole, cette économie sociale et solidaire est forte, mais aussi a tendance à se renouveler beaucoup, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure.
On en parlera.
Des choses très intéressantes qui sont en train d'être faites.
Alors justement, on parle du bénévolat, mais l'ESS c'est aussi un secteur économique, des activités, c'est un secteur qui crée aussi des emplois. En parlant des secteurs d'activité représentés dans le cadre de l'ESS, qu'est-ce que c'est ? On comprend les associations, mais il y a également des mutuelles, des banques, possiblement même des chefs d'entreprise, des entreprises qui se veulent du secteur de l'économie sociale et solidaire.
Alors, l'économie sociale et solidaire à Saint-Étienne Métropole, c'est un peu plus de 21 000 emplois, 1 500 établissements. Donc à l'intérieur, on trouve effectivement des associations. C'est 85% des établissements sont des associations. Elles représentent 75% des emplois. Et la particularité de Saint-Étienne Métropole et du territoire ligérien de manière globale, c'est que la part des mutuelles et des coopératives est plus importante que sur d'autres territoires.
D'accord. Si l'on parle de secteur d'activité, par exemple, dans le bâtiment, quelqu'un qui aurait son entreprise, qui ferait des prestations à des particuliers, mais qui souhaite avoir un portage juridique dans le cadre de l'ESS, là, pourquoi on, finalement, le met dans la catégorie économie sociale et solidaire ?
Je vais tenter de répondre à ça. En fait, il y a sur le territoire une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Cabestan, qui est spécifique sur ces métiers-là du bâtiment. L'idée, c'est plutôt que d'entreprendre individuellement ou en petit collectif, c'est de confier le portage, effectivement, et la mutualisation des garanties au sein d'un collectif d'acteurs individuels. C'est-à-dire qu'au quotidien, les personnes sont sur leur chantier, si on parle du bâtiment, de manière individuelle. En revanche, l'accompagnement sur la comptabilité, sur la veille, sur les normes, il se fait collectivement et au sein de cette coopérative-là. Voilà.
Alors c'est vrai que c'est particulier parce que je parlais du bâtiment, mais on peut aussi parler d'un coiffeur qui pourrait être hébergé chez Talents Croisés sur une forme de test, de préparation. Et là aussi, c'est une activité qui pourrait être une activité privée. Alors le fait de s'inscrire dans ce cadre de l'économie sociale et solidaire, quelle garantie, entre guillemets, ça pourrait apporter à l'entrepreneur ?
C'est vrai qu'on a tendance à identifier des secteurs où sont fortement représentés les acteurs de l'économie sociale et solidaire historiquement, les services d'aide à domicile, l'économie circulaire, l'agroalimentaire. Mais en réalité, vous avez raison, en fait, l'économie sociale et solidaire peut être sur tous les champs d'activité. Et si on reprend la définition de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, à savoir une gestion démocratique, un intérêt collectif, et ou une utilité sociale au cœur du projet économique et enfin une lucrativité orientée, ce qui fait qu'on a des structures de l'économie sociale et solidaire depuis très longtemps qui sont plus pérennes, et on l'a vu en 2008 lors de la crise économique, que des structures classiques. C'est justement parce que les prises de décision sont faites démocratiquement et qu'on oriente les bénéfices réalisés dans des réserves impartageables, ce qu'on appelle des réserves impartageables, qui vont permettre aux structures de faire face en cas de coup dur économiquement, ou alors d'avoir des fonds disponibles pour faire les investissements nécessaires à leur développement. Voilà.
Alors Saint-Étienne Métropole s'investit dans la promotion de l'économie sociale et solidaire en finançant des structures qui, elles, vont guider des porteurs de projets. Pourquoi la métropole s'empare de cette question-là ?
Alors la politique en matière d'économie sociale et solidaire donc, au sein de Saint-Étienne Métropole a plus vocation donc à animer process avec dans le cadre donc du partenariat que nous avons avec la MIF et d'animer également tout ce qui est outils par rapport à l'ESS plus que d'aller financer en direct des structures. Bon, je vous cache pas que nos budgets sont contraints au niveau des collectivités locales. Bon, c'est vrai que nous avons un budget global qui s'élève à 125 000 euros et qui ne permet pas justement d'apporter une aide directement à toutes les structures qu'on voudrait accompagner. Mais c'est surtout dans le cadre de l'animation et de la promotion au niveau de notre politique que nous avons un impact. Alors à travers, bien entendu, la MIF, mais également Hello, hein, qui est parmi nous cet après-midi, à travers ce qu'on appelle le DLA, tout à l'heure Romain en a parlé. Nous avons un financeur qui est Loire Active, qui est quand même un partenaire incontournable en matière de financement des TPE, mais également du financement des structures ESS. Et puis c'est également des initiatives qui sont multiples pour toujours avoir pour vocation, d'une part, de promouvoir l'ESS, mais surtout de pérenniser et de développer les emplois au sein de l'ESS. Donc il y a différentes actions qui ont été menées ces dernières années, on pourra en parler tout à l'heure. Mais notre politique, en fait, elle touche justement à promouvoir l'ESS, à faciliter l'accès à l'emploi au niveau des structures, mais également du public qui recherche à travailler. Et voilà. Également, nous avons vocation aussi à encourager l'entrepreneuriat, ce qui m'apparaît très important, puisqu'au-delà d'avoir de l'emploi salarié, l'ESS aussi, c'est un vecteur aussi pour créer sa propre entreprise, donc pour créer son emploi soi-même, donc encourager l'entrepreneuriat pour ensuite, peut-être après, devenir employeur également.
On l'a dit tout à l'heure, hein, l'ESS est très très large, on a donné quelques exemples. Sur le territoire, les notions d'emploi public, privé, comment on les définit ?
Alors, la notion d'emploi public, privé, elle est définie en fonction de votre établissement employeur. Il faut savoir que la plupart, les emplois de l'ESS trouvent plutôt leur place dans les parties privées. Il faut savoir que l'ESS, sur le territoire de Saint-Étienne Métropole, c'est 14% de l'emploi total et c'est 20% de l'emploi privé. Alors, un petit chiffre qu'on aime bien donner, c'est pour avoir une idée de ce que représentent ces 14%. On sait que le territoire de Saint-Étienne Métropole est reconnu pour sa spécificité industrielle. Et il faut savoir que l'industrie sur Saint-Étienne Métropole, c'est 16% de l'emploi. Et du coup, l'économie sociale et solidaire, c'est 14%. Donc on voit finalement que cet ESS-là pèse quasiment autant dans les emplois que l'industrie sur le territoire de Saint-Étienne Métropole.
Alors là, c'est quelques chiffres. Il y a une étude qui a été faite, qui va être dévoilée dans le courant de la semaine, dans quelques jours. Une étude sur un panorama de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, sur Saint-Étienne Métropole. Pourquoi avoir lancé cette étude-là ? Et ça marque quoi comme point ? C'est un point de départ pour de nouveaux dispositifs ou c'est finalement un bilan ?
Je peut-être y répondre. D'un point de vue politique, c'est très important d'avoir en fait le retour et les résultats d'une politique qui est menée. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en 2014, donc sur ce sujet-là de l'ESS, bon, à la base, même si je suis quelqu'un qui est très impliqué au niveau du milieu associatif, on n'avait pas forcément de retour par rapport à l'impact que la politique qui a été menée par Saint-Étienne Métropole pouvait avoir. Donc dans les premières années, on a réfléchi par rapport à ça. On avait des chiffres qui étaient relativement anciens, plutôt sur 2009. On ne mesurait pas du tout en fait les différentes actions qui avaient été menées au niveau de Saint-Étienne Métropole, ce que ça avait pu avoir, notamment sur l'emploi, mais également au niveau des structures. Donc c'était à cette occasion-là, avec la MIF et avec Romain, on a réfléchi à ça. Et donc on s'est tourné tout naturellement vers Hello, qui, comme l'a expliqué tout à l'heure David, dont fait des études. Et donc on a aujourd'hui on va dire un panorama, il porte bien son nom, de l'impact des politiques qui ont été menées ces dernières années, mais également aussi de la force et du dynamisme que notre territoire peut dégager indirectement par les acteurs. Et donc aujourd'hui, on voit quand même que y a des choses qui se font. Outre historiquement le réseau mutualiste et également l'impact des bénévoles, donc ça c'est historique, mais aussi on voit que ça continue à progresser et ça progresse plus vite que l'économie classique. Alors c'est peut-être pas forcément une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'aussi l'économie classique ne se développe pas assez rapidement aussi, mais on le voit, on crée des emplois. Bon, je crois que c'est 1450 emplois sur les années 2014-2015. Donc c'est plutôt encourageant. Et puis simplement encore à travers ce salon, on voit aussi toute la limite qu'il y a autour de ça. Et donc moi je suis très optimiste et ce panorama nous donne vraiment aujourd'hui une référence qui nous permettra dans les prochaines années aussi d'avoir un curseur et qui nous permettra de mesurer également l'impact de nos politiques.
Alors profitons de ce panorama et de votre présence ici un peu pour connaître finalement l'économie sociale et solidaire sur notre secteur. Quels sont les secteurs d'activité les plus représentés, les tailles des structures, le nombre de salariés, sans donner tous les détails, mais voilà, pour qu'on ait une petite image radiophonique. Donc voilà, n'hésitez pas à bien argumenter et nous faire voir ces images à la radio.
Très bien. Alors, le principal secteur de l'économie sociale et solidaire, pour 40% de l'emploi, c'est tout ce qui est lié à l'action sociale. Derrière l'action sociale, il y a tout ce qui est aide pour les salariés à trouver des emplois, il y a l'aide à domicile, l'aide pour les mineurs, et également tout ce qui est hébergement médico-social. Ça, c'est le principal secteur, c'est 40% de l'emploi. Les deux autres secteurs qui ressortent principalement, donc c'est la partie activité financière et assurance, qui représente 3300 emplois. Et l'autre secteur qui se développe beaucoup, c'est toute la partie enseignement privé, qui représente 3900 emplois. Et pour compléter les propos de M. Pose de tout à l'heure, quand il parlait d'une croissance qui était supérieure pour l'ESS, effectivement, on est à plus 8% d'emplois sur les trois dernières années, là où sur Saint-Denis Métropole, on est à plus 1% pour l'ensemble de l'emploi. Donc on voit qu'il y a une dynamique qui est beaucoup plus positive sur l'économie sociale et solidaire.
Alors, Monsieur Pose, vous avez évoqué plusieurs fois ce terme, le bénévolat. Alors ici, on en a un bel exemple avec toutes les structures. Est-ce que le bénévolat dans l'économie sociale et solidaire peut être inclus dans cette étude-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est comptabilisé quelque part, et dans quel sens?
Si je peux mettre un petit point, évidemment, le bénévolat est compté dans ce panorama-là, parce que c'est le bénévolat est là pour créer du lien social sur le territoire, renforcer les solidarités, et qui dit bénévolat dit don de temps et de compétences gratuits, mais dit aussi tout de même activité économique développée. Les associations, y compris avec celles qui ont du bénévolat, souhaitent développer des activités qui ont un impact économique. Ici, Tatou Juste est une association qui a beaucoup de bénévoles, et pour autant, on a une belle activité économique. Et puis, on y reviendra peut-être, mais le process, il est articulé autour de l'accompagnement des structures, du renforcement et de la professionnalisation des structures, de la sensibilisation à l'économie sociale et solidaire. On a une action qui s'adresse un peu plus aux entreprises via du mécénat de compétences, mais on s'articule avec des acteurs type AG2R La Mondiale ou la Caisse d'épargne pour faire en sorte que ce mécénat de compétences qui se fait dans un cadre professionnel puisse demain donner l'envie à des personnes de s'engager dans l'ensemble des associations de notre territoire qui représentent plus de 75% des structures d'économie sociale et solidaire de Saint-Étienne Métropole tout de même.
Alors on reviendra là-dessus et sur process un peu plus tard dans cette rencontre-là. Monsieur Pose, un petit mot sur le bénévolat, sur cette comptabilisation.
Romain l'a très bien dit, c'est vrai que c'est vraiment... un lien entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de concurrence entre les bénévoles et les salariés des structures ESS. Et le mécénat de compétences, il y a plusieurs initiatives qui ont été prises récemment dans le cadre de process. C'est vrai que justement de rapprocher les entreprises en fait, des associations, et ce qui permet à certains cadres, mais pas seulement, ça peut être des employés également, qui finissent leur carrière et qui commencent à préparer leur activité de retraite à travers donc un investissement qui, au départ, est bien entendu rémunéré, qui est rémunéré par leur employeur. Et c'est très important, je trouve, qu'il y ait ce lien et cette progressivité pour passer à une autre vie. Ça permet à des gens qui ne sont jamais intéressés du tout aux associations de s'en rapprocher. Et moi, je trouve que c'est pour les entreprises, c'est dans le cadre de leur démarche aussi RSE, faut le dire aussi. Alors, on pourrait dire, quelquefois, c'est un peu de la com, mais pas seulement. Pour avoir vécu une rencontre qui a eu lieu il y a quelques temps là, avec les différents donneurs d'ordre, ça nous a paru très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir encore le développer dans les années futures. Et voilà. Juste un mot, peut-être, j'en profite d'avoir le micro. On n'a pas beaucoup parlé de coopérative. C'est vrai que il y a aussi, pour moi, la coopérative est un bon angle aussi par rapport à la transmission d'entreprise. Je pense que c'est très important aussi de rapprocher l'entreprise, on va dire, d'un type classique vers une formule coopérative, et notamment dans le cadre de chefs d'entreprise qui ont du mal à céder leurs entreprises et qui la transmettent souvent à leurs salariés. Et je trouve que c'est un très bon support et une très bonne idée qu'il faut continuer à développer. Et d'ailleurs, à travers les chiffres qu'on a, les statistiques que nous avons, on sent qu'il y a quand même une dynamique assez intéressante sur tout ce qui est coopératif.
Alors, peut-être parlons un peu de ces statuts juridiques représentés, coopératives, associations, etc. Encore quelques chiffres pour qu'on ait un peu une idée de ce que ça représente ici sur notre territoire.
Alors le chiffre vraiment qui ressort pour le territoire de Saint-Métropole et qui prend son sens lorsqu'on regarde un peu l'histoire, c'est la place des mutuelles en fait pour le territoire de Saint-Étienne, puisqu'on a 13% de l'emploi, ce qui est plus que sur tout autre territoire de la Loire, mais ce qui est également beaucoup plus que d'autres métropoles comme Clermont-Ferrand ou Lyon. Et ces 13% de l'emploi, il s'explique principalement par le fait que, M. Pose l'a rappelé tout à l'heure, il y a toute une histoire derrière qui fait que Saint-Étienne est considéré comme le berceau des mutualités. Et du coup, c'est un ancrage historique qui vient aussi du poids de l'industrie qui perdure, fait que on a ces mutuelles qui se sont beaucoup développées sur le territoire ligérien.
D'accord. Au-delà de ces mutuelles-là, moi je voulais reparler peut-être des associations. Aujourd'hui, les associations, on a du bénévolat, on a un bureau, et puis l'emploi qui a été créé a souvent été créé avec des aides publiques et les emplois aidés n'existent plus. Quel impact ça peut avoir, ça, aujourd'hui, sur l'étude que vous avez faite au niveau d'Emploi Loire Observatoire ?
Alors, les contrats aidés, ils existent encore, mais sous une forme différente qui s'appelle le PEC, le Parcours Emploi Compétences. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à faire le raccourci que les contrats aidés n'existent plus. C'est plutôt qu'ils ont évolué sous une nouvelle forme. L'impact que ça pourrait avoir en emploi, c'est qu'on imagine que sur la période de transition entre ces deux dispositifs, en fait, il peut y avoir un léger fléchissement. C'est-à-dire le temps que les structures s'adaptent à ce nouveau dispositif. Mais on voit que sur les derniers chiffres communiqués au niveau national, il y a plutôt une reprise en main de ce dispositif qui est le Parcours Emploi Compétences. Et du coup, on s'attend finalement à ce que les effectifs soient assez stables dans le temps. Pour ce qui est de la partie association, en fait, c'est bien de soulever que, essentiellement, le tissu de l'ESS est composé des associations, et c'est encore plus le cas lorsqu'on prend l'ensemble des établissements. Parce que quand on parle de 1500 établissements à l'échelle de Saint-Étienne Métropole, on parle des établissements employeurs. Mais en fait, à l'échelle d'un territoire comme Saint-Étienne Métropole, il y a 6000 établissements qui sont recensés. Donc ça signifie qu'il y en a 4600 qui ne possèdent pas de salariés, qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles. Ce qui amène aussi d'autres problématiques, qui est celui de ces bénévoles qui donnent de leur temps, comment ils peuvent accéder à de la formation, par exemple, pour pouvoir continuer à s'améliorer et à faire vivre la structure. On remarque aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont 50 ans ou plus dans ces associations-là. Et finalement, quels sont les canaux de transmission, comme vient de souligner M. Pose aussi, pour que ces associations perdurent et puissent évoluer ensuite dans le temps.
Alors, il y a beaucoup d'évolutions. On a cité le PEC, vous l'avez dit, et on en vient à process. Finalement, il faut accompagner tous ces acteurs de l'économie sociale et solidaire et leur donner un peu une carte pour se retrouver dans toutes ces histoires administratives un peu compliquées quand même. C'est donc un peu le point de vue de process. Le point de départ de process, c'est quand, à quel moment ?
Le point de départ de process, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à peu près 2010. On est dans un contexte post-crise économique avec une forte déprise de l'emploi sur le territoire et des fermetures de structures. Et à la MIF, on accueille beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui nous font part de leur envie de créer leur entreprise qui a du sens sur le territoire. Donc déjà à l'époque, on avait été chercher Hello pour mettre un chiffre et un peu des données là-dessus. Et en fait, bon, c'est ce qu'on a appelé plus tard, dans le cadre de la loi 2014, l'économie sociale et solidaire, on s'est rendu compte que effectivement l'économie sociale et solidaire était pourvoyeuse d'emploi, et c'est la raison d'être du process dès le début. Et Saint-Étienne Métropole a pris à bras-le-corps, je dirais, cette thématique-là. Le process, pour en parler un tout petit peu plus, il est depuis 2010 articulé autour des trois mêmes axes, effectivement, pour pouvoir s'orienter. Le premier axe, c'est accompagner et favoriser la création de structures en économie sociale et solidaire. Comment je fais ? J'ai envie de créer une structure, comment je fais ? Le deuxième axe, c'est favoriser et pérenniser les structures déjà existantes, parce qu'elles sont nombreuses. Et puis le troisième axe, c'est sensibiliser et promouvoir à l'économie sociale et solidaire. Pour revenir pour un petit peu sur chacun de ces trois axes, le premier axe, vraiment, c'est ça. C'est j'ai envie de créer, j'ai une idée, et comment je vais faire pour le faire. Et c'est en ça où le process et Saint-Étienne Métropole appuient des dispositifs. C'est-à-dire que nous, la MIF, on va recevoir une personne ou un collectif de personnes qui ont l'idée d'entreprendre mais qui ne savent pas comment faire. Moi, mon rôle, c'est de leur présenter un peu l'écosystème qui gravite avec, on l'a dit, du portage salarial vers les coopératives d'activité et d'emploi, mais aussi des incubateurs. Ronalpia est présent ici. Des accompagnateurs sur le choix de ces statuts juridiques, des financeurs, leur active, initiative, les cigales qui sont aussi présents ici. En réalité, sur le Talon Tatou Juste, vous avez beaucoup d'acteurs qui sont là.
Voilà, l'accompagnement à la création de sa propre activité, donc de son entreprise, peu importe le statut finalement, passer par process, ça permet aussi donc d'avoir des interlocuteurs qui vont nous permettre de commencer une activité sans prendre des risques, tous les risques qu'on peut avoir si on a un statut plus d'ordre privé, d'avoir des phases de test, d'avoir une étude sur la faisabilité du projet. Comment ça s'organise au niveau de process, et puis toutes les structures finalement qui font partie de, vers lesquelles vous guidez les gens qui ouvrent votre porte?
Ouais, sur cette phase-là spécifiquement, c'est vrai que les gens viennent à la MIF, prennent le temps de me raconter leurs projets. Et nous, ce qu'on fait effectivement, c'est de leur faire connaître l'écosystème. Et puis l'étape d'après, après le passage de l'idée au test, c'est d'aller voir des structures comme Talents Croisés ou Cabestan sur les métiers généralistes ou du bâtiment, ou des structures type Ronalpia ou Alterincube, qui sont là, sont des véritables incubateurs qui permettent tester son projet sur 9 mois. Avec toutes les formations dont vous parlez. Ça, c'est vraiment important parce que il y a un chiffre qui est assez significatif, c'est qu'une structure qui a été accompagnée sur sa phase de lancement, évidemment, il y a toujours un risque lorsqu'on crée son entreprise, mais à 3 ans, 70% de ces structures sont toujours vivaces et vivantes à 3 ans, ce qui est de l'ordre de 30% lorsqu'on ne passe pas par cette étape-là. Donc c'est vraiment des acteurs sur lesquels on se repose dans le cadre du process.
Alors, revenons sur process. Toute personne peut venir vous voir. Vous avez donc le réseau autour. En quoi Saint-Étienne Métropole et la MIF, en quoi vous travaillez finalement main dans la main ?
Alors, c'est notre bras armé, en fait, Romain. C'est... Bon, à noter, d'ailleurs, bon, féliciter, parce qu'en général, chaque année, ils rencontrent entre 280 et 300 structures, quand même. Alors, des structures qui se créent, mais également des structures qui existent. Donc il y a un gros travail. Donc c'est vrai que ce travail d'accompagnement, on a voulu aussi nous le poursuivre à travers un fonds de professionnalisation qu'on a lancé donc dès 2014, ce qui permet en fait d'accompagner aux côtés de ce que fait la MIF à travers différents modules de formation. Ça peut aller de la gouvernance d'une association, en passant par la gestion financière, mais également la gestion du personnel, et puis tout ce qui touche à la vie d'une entreprise. Donc il y a eu une trentaine de modules qui ont été organisés donc depuis 2015 et qui se sont poursuivis jusqu'en 2017 et début d'année 2018. Et là, véritablement, on était très complémentaires avec la MIF, puisque, outre le travail de terrain qui est fait par la MIF au quotidien en accompagnant en façon individuelle les structures, il y a aussi une approche un peu collective et en réunissant en fait tous les acteurs qui émettent des besoins en matière de formation, soit pour accompagner leurs salariés d'ailleurs, mais également leurs responsables et leurs bénévoles.
Alors Romain, on va revenir vers vous. Alors ça, c'est une question un peu plus personnelle dans le cadre de votre travail. Les phases de test, de faisabilité, est-ce que finalement vous avez une influence sur le secteur d'activité qui va être représenté, etc. Est-ce que vous, en ayant connaissance un peu aussi des structures existantes, on n'influence pas finalement le porteur de projet?
On va pas se cacher, moi je suis payé pour promouvoir l'économie sociale et solidaire, donc s'il peut aller vers l'économie sociale et solidaire, moi ça m'arrange. Après, pour être tout à fait objectif, le but du process, et c'est déjà arrivé, on a accompagné des structures jusqu'à la création qui finalement n'ont pas choisi les statuts d'économie sociale et solidaire. Ce qu'on souhaite promouvoir à travers le programme d'économie sociale et solidaire, c'est des entreprises qui ont une viabilité économique qui leur permettent de porter des emplois et d'avoir un impact social et ou environnemental. Mais voilà, ça c'est notre objectif. Ensuite viennent les questions de quel statut juridique j'adopte, etc. Mon rôle, c'est de les conseiller, de montrer le champ des possibles, et après, charge aux porteurs de projets en collectif de faire les choix qui leur apparaissent comme les plus pertinents par rapport à leur structure. Mais voilà, les personnes sont au cœur de leur projet. Nous, on ne fait qu'accompagner leur démarche et on ne choisit bien évidemment pas à leur place.
Alors, si on parle de secteur d'activité, alors je vais parler de coiffeur, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça, mais voilà. Quelqu'un monte son entreprise dans le parcours d'économie sociale et solidaire, puis ensuite change, retrouve un statut privé. C'est une réussite pour vous ou c'est une déception ?
Non, ça reste une réussite. Le coiffeur, si on reprend cet exemple-là, il amène un service au territoire. C'est généralement le cas, d'ailleurs. Les coiffeurs, en fait, on fait de la dentelle en fonction de chaque porteur de projet. On essaye de l'orienter en mieux en fonction de son projet. Un coiffeur, il peut tester son activité dans le cadre d'un contrat d'accompagnement chez Talents Croisés pendant 3 ans. Et c'est tout le temps le cas. À l'issue de ces 3 ans d'accompagnement, il fait son choix. Soit il décide de rejoindre la coopérative d'activité et d'emploi parce que c'est un fonctionnement qui lui va bien. Soit il va sur un statut tout à fait privé. L'idée, c'est avec le process de faire en sorte que les porteurs de projets fassent leur choix de manière éclairée. Alors nous, on fait tout pour qu'ils aillent vers l'économie sociale et solidaire parce qu'on estime que c'est plus pertinent, mais leur choix, il est individuel.
Il n'y a vraiment pas de concurrence entre les deux ?
Oui.
Je veux dire, après, c'est le territoire en bénéficie obligatoirement. Après, voilà, il y a des structures qui font l'inverse.
Oui,
en
fait, qui...
Ça peut arriver aussi. Hein. Et Romain les accompagne aussi.
Voilà. Est-ce que ça a été c'est montré dans ce panorama ? Est-ce qu'on a est-ce que vous avez traité cette question-là ?
La question du changement de statut, non, on l'a pas traité. C'est-à-dire que la difficulté lorsqu'on a une base de données, c'est qu'on a l'état à un instant T, et finalement on sait juste, voilà, en année 2015 par exemple, quel est le statut des entreprises. On n'a pas forcément un historique à disposition.
Donc pas d'évolution. Romain.
Ouais. Juste pour revenir un peu sur ce panorama-là, certes, il nous donne des éléments instantés, mais on a demandé aussi à Hello de nous faire des pyramides des âges sur les différents métiers intéressants. Et c'est un outil de travail aussi pour nous. Quand je dis pour nous, l'économie sociale et solidaire, il est au service économie de Saint-Etienne Métropole, mais c'est une politique qui en réalité est transversale à l'ensemble des services de Saint-Etienne Métropole, qu'il s'agisse du développement durable, de l'agriculture, enfin voilà. Et ça va nous donner vraiment des éléments qui vont nous permettre de travailler demain à construire un process qui ira. On en parlait tout à l'heure de la transformation d'entreprise classique sous forme coopérative. Ça nous donne vraiment des éléments qui vont guider notre politique dans les années à venir.
Alors, on peut faire une petite pause. Si dans le public, vous souhaitez poser des questions, vous pouvez demander un micro à notre cher Loïc qui vous fera passer donc pour toutes vos questions, s'il y en a. S'il n'y en a pas, moi j'en ai une. L'avenir, c'est quoi de l'économie sociale et solidaire ? Secteur économique en croissance jusqu'à quand ? On n'est pas visionnaire, on est d'accord, mais voilà. Est-ce qu'on s'offre quand même la possibilité de voir loin ?
On peut être très optimiste, je pense que réellement, on le sent à travers ce que vit notre société actuellement. Il y a beaucoup d'évolutions. Bon, on parle bien entendu d'écologie, on parle de développement durable. Et il est clair que la vision des gens aujourd'hui a complètement changé. Aujourd'hui, on n'a plus des visions qui sont complètement différentes les unes des autres, mais qui sont parfois opposées, malheureusement, un peu trop souvent, mais aussi complémentaires. Il est clair qu'aujourd'hui, peut-être les nouvelles générations aussi qui arrivent ont une vision, notamment en matière de travail, en matière d'entreprise, qui est complètement différente de la nôtre. Et moi, je pense réellement que c'est un secteur qui va continuer à se développer. On le voit à travers les chiffres qui sont très intéressants. Et au contraire, c'est une nouvelle forme aussi en matière de vie. C'est vraiment un choix de vie complètement différent, mais qui est, à mon avis, pas en opposition avec ce qui peut être vécu à côté. Bon, je vous dirai pas ce que je fais dans la vie, mais c'est vrai que dans ma vie professionnelle, j'ai une vie qui est complètement différente de ce que je vis en tant qu'élu, quoi. Et je trouve qu'elle est assez complémentaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition réellement, quoi. On peut très bien avoir des convictions fortes dans certaines idées et en dehors, avoir aussi une vie en entreprise qui soit un petit peu différente aussi. Mais justement, dans la vie d'entreprise, on garde des valeurs et qu'on essaye aussi de faire passer aussi.
Alors, une question.
Alors moi, par contre, ce ne sera pas une question, je suis désolé, mais j'aimerais parler d'une structure qui s'appelle Unicité, qui accompagne également des jeunes sur l'économie sociale et solidaire. J'ai fait partie du programme Entre autres Rêves et Réalise proposé par Unicité. Et c'est vrai que c'est un premier pas pour des jeunes, étant donné que c'est de 16 à 25 ans. C'est un premier pas pour, si on a un projet X ou Y, d'aller les voir et de se confronter, on va dire, dès, entre guillemets, le plus jeune âge, à des problématiques et à du montage de projets de A à Z. Se rendre compte de la réalité du montage de projet, de l'entrepreneuriat, et c'est, pour ma part, j'ai fait le bilan, et c'est une bonne première approche de l'économie sociale et solidaire. Voilà.
Alors, là, bien sur l'autre question de process, c'est finalement, c'est se confronter à une réalité, c'est aller sur le terrain, c'est réfléchir, c'est être accompagné. Et dans process, vous l'avez dit tout à l'heure, il peut y avoir des personnes, des entreprises qui vont être conseils aussi. Qui sont-elles, sans les citer toutes, mais pourquoi, en fait, finalement, leur demander d'intervenir ?
Ah ben, ce que je disais tout à l'heure, en fait, l'accompagnement dans son processus de création ou même de pérennisation va permettre, alors, d'une part, d'apporter des compétences peut-être que les structures n'ont pas en interne, et puis aussi, ça c'est très important, un regard décalé, peut-être un regard extérieur qui vient réinterroger sur certaines pratiques. Donc le fait d'avoir un écosystème bienveillant vis-à-vis des démarches qui ont un impact social et environnemental va permettre à ces acteurs-là de se doter d'outils qui vont leur permettre de mieux gérer la structure et l'impact qu'elle a sur le territoire. Ouais.
Alors si on reprend finalement la définition donnée en début d'émission, une gestion démocratique et participative, le profit individuel est proscrit, les résultats sont réinvestis. Et quand je vous ai présenté, Monsieur Pose, je vous ai présenté comme délégué à l'économie sociale et solidaire, et vous avez rajouté aussi les luttes contre les discriminations et l'accessibilité. C'est finalement le vivre ensemble. Alors, est-ce que l'ESS, c'est le modèle économique du vivre ensemble ?
C'est un beau modèle. C'est trois délégations qui sont très très proches les unes des autres. J'allais dire que à travers la lutte contre les discriminations, on a beaucoup de ESS également. À travers l'accessibilité également, on a aussi des contacts réguliers avec les associations qui justement s'occupent des personnes porteurs de handicap. Et il est clair que l'ensemble de mon champ de délégation est très complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre. Je voulais rajouter par rapport à l'ESS également, c'est qu'au niveau de Saint-Étienne Métropole, Romain l'a dit aussi, on travaille donc avec bien entendu les services économiques, mais également les services sociaux, mais également avec le service développement durable. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se font aussi de façon collective. L'ESS n'est pas une partie, dans son coin, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises et d'innovations sociales également, qui sont quelquefois très proches de start-up, de choses comme ça, qui touchent beaucoup à l'innovation, à la technologie, et qui, Et je pense que l'ESS est une bonne formule aussi pour commencer à lancer ce type de projet qui parfois paraissent un peu farfelus quelquefois. Et qui ont besoin, non pas forcément tout de suite d'argent, mais surtout de soutien. Et c'est à ce titre-là que la MIF joue un rôle très important. Mais voilà, c'est vraiment une collaboration très étroite entre les différents sujets, quoi.
Alors, pour terminer cette rencontre, est-ce qu'il y a des dates à venir importantes dans le cadre de l'ESS? Chacun d'entre vous, la présentation de ce panorama, ça va se faire à quel moment, pour qui, et puis après, quelle est la suite?
Peut-être quelques dates. On parlait de rêver et réaliser. C'est vrai que dans le troisième axe, on a pour vocation de promouvoir l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire chez les jeunes. Et rêver et réaliser sera présenté demain à la Maison de l'Emploi. Donc s'il y a des jeunes qui ont envie de s'investir dans l'ESS, c'est le moment. On parlait de mécénat de compétences tout à l'heure. À Saint-Étienne Métropole, sera présenté le 4 décembre prochain. Les structures qui ont été accompagnées par ces structures dont on parlait tout à l'heure, AG2R et la Caisse d'épargne, pour voir comment, quelle forme ça prend. Et je laisserai peut-être David nous parler un peu plus de ce panorama qui sera présenté tout prochainement.
Oui, alors jeudi, en fait, le 29 novembre, 5 partenaires éco que sont la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, l'URSSAF, Emploi à l'Or Observatoire et l'Agence d'urbanisme, on réalise chaque année une étude sur les évolutions économiques dans la Loire. Donc on balaye un peu tous les secteurs d'activité pour donner des évolutions en termes d'emploi. Et à l'issue de cette présentation, aura lieu une table ronde sur l'économie sociale et solidaire qui va avoir pour terme, en fait, le partenariat entre acteurs de l'économie sociale et solidaire et ce qu'on appelle l'économie classique. Et à cette table ronde, il y aura notamment, par exemple, la directrice de la CRES, donc de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, Madame Petot. On aura également des structures de l'ESS comme Maison pour rebondir avec Madame Barraillé, Maison pour rebondir qui est en fait une structure qui a été créée par le groupe Suez. On aura également pour la partie plus locale et régionale Monsieur Gaillet, en fait, d'Envie Rhône-Alpes, qui va venir débattre sur quels sont les partenariats entre ces deux mondes, entre guillemets, l'ESS et l'économie classique. Est-ce qu'il y a concurrence? Est-ce qu'il y a complémentarité? Et comment ces deux mondes peuvent s'inspirer l'un de l'autre pour tirer le meilleur de chacun?
Alors, est-ce que c'est ouvert à tout public?
Alors, c'est ouvert, on va dire, à l'ensemble des structures type entreprise, établissement, structure de l'ESS, institutionnelle. C'est à l'IRUP. Après, c'est sur inscription. Il suffit d'envoyer un mail à Emploi Loire Observatoire.
Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur cette question-là de l'économie sociale et solidaire avant de terminer cette table ronde? Pas de questions? Un petit mot de la fin.
Rajouter un mot et féliciter les organisateurs du Salon Tas Tout Juste. C'est vrai qu'on est très, très fiers de les encourager et de les soutenir financièrement à travers la plateforme Loire Solidaire. Mais c'est vrai que ce salon contribue beaucoup justement à bien promouvoir tout ce qui tourne autour de l'ESS. Et il est clair que la difficulté aussi de l'ESS, c'est également de s'adresser à un plus large public, un plus grand public. Et c'est vrai que c'est vraiment une bonne, un bon vecteur, hein, puisque aujourd'hui, on touche quelquefois un peu trop des spécialistes et pas suffisamment le grand public. Et moi, je trouve qu'à travers ces deux jours qui viennent de se dérouler, c'est une belle image qu'on donne à l'ESS. Et rajouter aussi que on fait appel aussi à nos générations les plus précoces, de futurs peut-être entrepreneurs, à travers donc nos coopératives de jeunesse. C'est-à-dire qu'on a créé, on a soutenu dans le GIE à Saint-Étienne et peut-être à Firminy l'année prochaine. Donc ce type de coopérative qui est vraiment la base en fait de l'investissement que des jeunes peuvent avoir, donc pour trouver leur job d'été. Et je trouve que c'est une très très bonne formule qui a été soutenue par la MIF, mais également par Saint-Étienne Métropole.
Alors, on parle d'économie sociale et solidaire. Je vous rappelle que cette conférence sera diffusée sur des radios de l'économie sociale et solidaire. Radio Ondaine 90.9 FM, Radio Dio 89.5, deux radios associatives existantes depuis 1981. Donc, un modèle déjà testé, éprouvé. Vous pourrez retrouver toutes les rencontres du salon Tatou Juste sur nos antennes, nos ondes respectives et sur nos sites internet également. Merci.